petits ou grands, enfants ou géants, petits frères ou grand-mères, voici l'heure des oreilles buissonnières. Bonjour, comme je suis contente de vous retrouver, mes petites et grandes oreilles, pour notre émission bimensuelle des oreilles buissonnières sur 99.2. Bi quoi ? Ben oui, bimensuelle, parce que bi 2 et mensuel moi, ça fait un total de 2 nouvelles émissions par mois. Sauf que, sur Radio Méga, 2 égale 12 et 1 égale 6. Les émissions ici, c'est comme les champignons. Ça pousse, ça mousse et ça éclabousse. Tout ça pour dire que chaque émission est diffusée 2 semaines d'affilée. Le dimanche à 19h, le mercredi à 12h15 et pour les couches très tard ou les lèvres très tôt, le mardi à 1h30. Donc, une émission égale 6 diffusions. C'est la magie des ondes. Bref, rentrons dans le vif du sujet et précisément dans le vif de l'histoire. Mais pas celle que je vous lis à la fin de l'émission, non, non. L'histoire avec un grand H, avec ses grands hommes et ses grandes femmes, mais aussi ses petits bons hommes et ses petites bonnes femmes qui, pierre après pierre, ont construit le chemin du temps qui nous mène jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Ici présent devant vous, Dominique Pierre, historien, pour la question suivante. L'histoire avance-t-elle de mieux en mieux ou de pire en pire?
C'est sûr qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas avant et qu'on a maintenant qui nous servent vachement. Genre les caméras, plein de trucs quoi.
Bah moi, je pense que les Romains par exemple, ils ont conquis presque la moitié de la Terre. Mais ils l'ont fait sans tout ce qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas de canons. Ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de télé, ils n'avaient pas de hamburger, ils n'avaient pas plein de choses, ils n'avaient pas de médicaments. Mais ils ont fait tout ça sans tout ce qu'on a aujourd'hui et je pense que c'est mieux.
Ben pour moi, ça a vachement changé aussi parce qu'avant, par exemple, à l'époque des chevaliers, ils avaient des armes normales quoi. Enfin, ils avaient des épées, des boucliers, tandis que nous maintenant, on a conçu plein de trucs. On a fabriqué des mitrailleuses, des bombes atomiques, et des fois même ça détruit le monde quoi.
Moi je dis que le monde il nous réserve plein de choses merveilleuses et que si on continue comme ça, on va tout gâcher.
Donc tant on n'avait pas des ordinateurs et tout ça, ils arrivaient à aller quelque part sans voiture, ils arrivaient à faire plein de choses. Et en fait, tout ce qu'ils faisaient était écologique.
Ben, je pense que si on continue comme ça, et que ça sera dans le futur, il y aura presque plus que des robots. Les maîtres, ça sera des robots. Et donc, les humains, ils n'auront plus d'argent, vu qu'ils ne travailleront plus.
Moi, dans le temps, on n'avait pas autant de choses. C'est vrai qu'il y avait des gens qui mouraient, qui étaient malades parce qu'ils n'avaient pas assez, même. On arrivait à des périodes où on avait exactement ce qu'il nous fallait. Maintenant, on a beaucoup trop de choses. À force d'utiliser les voitures, toutes les choses qui polluent, tout va disparaître. Les animaux à cause du réchauffement climatique, il y a des gens qui meurent, des animaux. Et si ça continue comme ça, il n'y aura plus rien sur la Terre et même nous, on ne pourra plus vivre.
Moi, je dis pareil que mes camarades parce qu'on progresse, on progresse. Ça fait bien pour nous, mais pour la Terre, c'est pas génial.
Ben moi, je dis que c'est de pire en pire et c'est aussi, ça avance aussi trop, je trouve. Mais on peut aussi faire plein de choses avec rien, comme on a vu dans le spectacle Lilo que notre maîtresse Dana Sienrank a animé. Mais aussi le progrès, comme les Nintendo DS, les GameCube, les voitures, on aurait très bien pu s'en passer. Mais on trouve tellement ça bien qu'on achète, on achète. Et en fait, c'est pour faire des sous et ça pollue la planète. Après, la planète, elle a été faite aussi pour... Elle savait qu'on allait polluer. Mais au bout d'un moment, quand on pollue trop, elle va exploser. Au bout d'un moment, il faut arrêter de tout polluer.
La Terre, elle était mieux sans les humains. Avant, les gens, ils étaient beaucoup plus écologiques que nous parce qu'au lieu des voitures, ils utilisaient des chevaux, donc c'était plus écologique. Et oui, c'est vrai, ils avaient pas beaucoup de trucs pour se soigner, ils étaient pas pauvres, mais voilà. Et ils ont réussi à faire sans tout ce qu'on a aujourd'hui.
Ben, moi je dis qu'il faut arrêter tout ça, par exemple, après on fera comme dans E.T., on sera énorme sur des fauteuils, on volera à 3 mètres du sol et on sera énorme, on ne pourra même plus s'avancer pour prendre quelque chose, on mangera que des trucs en bois à boire, il y aura des robots pour nous maquiller, pour nous laver les pieds, nous couper les ongles, ce sera vraiment n'importe quoi, hein. Et par exemple... Napoléon, il avait pas tout ça, il avait pas de télé, il avait pas de Nintendo DS pour jouer, il avait pas de voiture, ils allaient à cheval, ils faisaient pas comme nous. Il y a plein de choses qui nous servent pas dans notre vie, alors faut arrêter tout ça. En plus, il y a la forêt amazonienne qu'on coupe et on appelle ça les poumons de la terre. Et ben, ils ont bien raison parce que les arbres, c'est ce qui nous fait respirer. Ça devient un peu n'importe quoi, hein. Et puis il y a la crise économique, il y a une grosse, il y a la consommation aussi. Il y a trop de gens qui consomment trop. Alors c'est vraiment n'importe quoi, hein. Déjà, c'est pas dans 10 ans qu'on va disparaître, c'est en 2050 peut-être si on continue d'être pas assez écologique. Alors bon, faut continuer de faire le mieux qu'on peut pour être écologique, mais faut pas trop s'inquiéter, faut quand même être joyeux, faut vivre sa vie quoi, faut pas laisser la lumière allumée pendant toute une journée alors qu'on n'est pas là, mais faut quand même être écologique et vivre sa vie, faut être heureux, faut voilà quoi.
Et bah, on évolue. On va continuer encore à évoluer. Au bout d'un moment, on sera tellement évolué qu'on fera plus rien, on sera flemmard. Alors, ça déjà, ça va sûrement encore plus polluer. Et puis, le futur, ça sera nous. Si nous, on fait pas le futur, il n'y a personne qui le fera, puisque nous, on est les enfants. Donc, après nos parents, ça sera nous. Et donc, on est le futur et faut le faire. Faut être...
Si j'ai bien toute ma mémoire, disait Dieu dans un coin du ciel. J'avais commencé une histoire sur une planète nouvelle, toute bleue. Bleue pour pas qu'on la confonde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. J'avais mis des gens de passage et j'avais mélangé les couleurs. Je leur avais appris le partage, ils avaient répété par cœur, toujours, tous toujours dans la même ronde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. Hommes, pour chaque fille, une colline de fleurs. Et puis j'ai planté des arbres à pommes où tout le monde a mordu de bon cœur. Et partout, partout des rivières profondes. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. La ville s'arrête, il paraît que les fleuves ont grossi. Les enfants s'approchent, s'inquiètent, demandent pourquoi tous ces bruits. Sans doute Dieu et sa barbe blonde. Dieu qui s'est assis sur le rebord du monde et qui pleure de le voir tel qu'il est. Thank you. qui pleurent de le voir tel qu'il est.
Alors donc, d'après ce cher Francis Cabrel, s'il pleut, c'est que le ciel pleure de voir notre monde tel qu'il est. Mais à la fois, la pluie, elle fait pousser nos arbres et nos fleurs. Alors bon, que dire, que faire ? Dominique Pierre, vous qui êtes homme d'histoire, l'histoire avance-t-elle de mieux en mieux ou de pire en pire ?
Est-ce qu'elle avance de mieux en mieux et de pire en pire ? Je ne sais pas, est-ce qu'il faut reprendre ce que disent ces enfants ? Parce que, je veux dire, qu'en les écoutant, j'ai été à la fois, je m'attendais à un certain nombre de réponses, et puis en même temps, plus j'y réfléchis, plus je suis surpris, parce que ça n'est pas du tout schématique ce qu'ils disent. Et finalement, peut-être qu'ils ne disent ni l'un ni l'autre. Avance-t-elle de mieux en mieux ou de pire en pire ? Alors on entend bien, si on continue comme ça, ça progresse. Mais j'ai pas l'impression qu'ils idéalisent ou ils noircissent notre passé, pas plus qu'ils d'ailleurs ils n'idéalisent ni noircissent notre présent. Hein ? Alors, est-ce que l'histoire avance de mieux en mieux ou de pire en pire ? Eh ben, évidemment, il parle beaucoup d'écologie, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Il y a eu le sommet de Copenhague, il y a eu d'autres choses, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Et bien sûr, les gens sont un petit peu bombardés dans les médias par l'idée que c'est l'homme qui est en train de détruire le climat. Alors là, je pense qu'effectivement, les élèves sont assez perméables à ce qu'ils entendent. Hein. Alors peut-être effectivement que du point de vue du climat, là, il y a peut-être des prises de conscience à effectuer. D'un autre côté, peut-être que dans d'autres domaines, le monde va-t-il de pire en pire ? C'est pas sûr. Y a-t-il moins de bons romanciers, moins de bons musiciens ? Est-ce que dans le domaine, je ne sais pas moi, social, ça va, ou dans le domaine de la violence, est-ce que ça va de mieux en mieux, de pire en pire ? Je suis pas sûr en tout cas qu'un historien raisonne comme ça.
C'est-à-dire que dans cette question, il y a un petit peu le côté que l'histoire avancerait de manière linéaire, comme si elle allait soit tout vers le bien, soit tout vers le mal.
Voilà.
Or, est-ce que on peut juger l'histoire de cette manière-là ? Est-ce que c'est le rôle de l'historien, en tout cas ?
Non, c'est pas le rôle de l'historien. L'historien, c'est quelqu'un qui doit essayer, à travers les faits du passé, peut-être de voir une trame, un fil directeur. Mais il faut peut-être pas qu'il s'abandonne à une vision ou catastrophiste ou à une vision irénique des choses, ou même à la vision du style rien ne change jamais parce que les hommes sont toujours pareils.
Oui, parce que c'est comme si on mettait une morale derrière ça, quoi.
Oui, c'est comme si on mettait une morale ou une sorte de plan. Alors, ça pourrait être un complot si tout allait de plus en plus mal, ou une sorte de dessein providentiel, divin, derrière, qui nous conduirait vers un bonheur ou un paradis. Bon, après...
Là, on est plus dans la religion, quoi, quelque part.
Parfois, oui, il peut y avoir des interpénétrations entre les deux, oui, je pense. Moi, ce qui m'a frappé, hein, j'ai bien écouté les enfants, c'est un certain nombre de phrases qui reviennent souvent. Le avant, on n'avait pas, par exemple. Hein, ça m'a beaucoup frappé parce que ils voient le passé quand même de manière finalement négative. Avant, on n'avait pas tout ce qu'on avait, mais d'un autre côté, c'est là que je dis que c'est pas schématique. Ils posent finalement la question, mais est-ce que ça nous rend plus heureux ou est-ce que ça nous rend plus aptes à vivre bien ? Il y a ces enfants qui ont dit, il y a plein de choses merveilleuses, il faut pas trop s'inquiéter, il faut être joyeux, heureux. C'est magnifique d'ailleurs de dire ça. Ils sont pas désespérés, ces enfants, c'est déjà
pas
bien.
Pas du tout, non. Et c'est comme s'ils traduisaient un petit peu cette avancée dans le temps comme une acquisition vers de plus en plus d'objets qui à la fois, comme vous le disiez, nous donnent du plaisir, du confort, la télé, les caméras, mais à la fois ces objets... ils sont la cause de notre perte, peut-être. Ces mitrailleuses, etc. C'est à double tranchant, comme vous disiez tout à l'heure. À la fois, ça nous conduit vers plus de bonheur, et à la fois, c'est la source de quelque chose qui va pas aller vers plus de bonheur.
Oui, c'est vrai. Il y a une chose aussi qui m'a frappé dans ce qu'ils ont dit, et ça m'a frappé parce que je crois me souvenir que dans un devoir que j'avais fait quand j'étais élève, j'avais évoqué ça, c'est-à-dire cette idée que en étant entouré de plus en plus d'objets qui font des choses pour nous, on va devenir fainéant, on va s'atrophier aussi bien physiquement que mentalement. C'est marrant parce que c'est vraiment une chose que j'avais dû écrire dans un devoir, je ne sais plus quelle année, et bah, j'ai l'impression d'être replongé là, cette crainte que bah, finalement l'objet ne soit pas là pour nous libérer, mais pour nous asservir finalement.
Et nous emprisonner. Mais une petite fille l'a dit tout à l'heure, hein, en parlant de fainéantise. Hein.
Oui, elle n'a pas bien employé le mot fainéantir, effectivement, oui. Bon, et puis il y a aussi le tout va trop vite. J'ai eu l'impression, enfin c'était peut-être pas dit comme ça, mais le tout va trop vite, qu'ils aient conscience que tout va trop vite, c'est une chose qui m'a un peu frappé parce que j'avais l'impression que c'était plus une chose qui correspondrait à mon âge, par exemple. Alors que les enfants semblent avoir cette idée-là. Alors est-ce que c'est leurs parents qui leur inculquent ? Est-ce qu'ils répètent ce qu'ils disent leurs parents ? Ou est-ce qu'ils en ont vraiment conscience ? Après, c'est très difficile parce que...
Ou est-ce que peut-être eux, de par leur âge, sont un petit peu comme le disait Cabrel, ce dieu assis sur le rebord du monde, et que eux ont justement cette capacité à un petit peu de distance pour regarder cette société qui évolue à côté d'eux et dans laquelle ils risquent de rentrer.
Oui, incontestablement, oui. Il y a aussi le c'est n'importe quoi. Alors le c'est n'importe quoi, bon, qui d'ailleurs ne définit pas vraiment, hein, là ça m'a aussi beaucoup frappé, le c'est n'importe quoi, le si on continue comme ça aussi. Hein, alors, si on continue comme ça, c'est des phrases un peu vagues qu'on place souvent dans une conversation, mais derrière laquelle il faudrait définir comme si c'était un petit peu des chevilles du langage. C'est assez étonnant.
Oui, puis c'est comme si eux, ils étaient porteurs de l'avenir, du futur, et que c'était à eux de changer le cours de l'histoire, qu'il allait d'une manière X ou Y, et que eux, en entrant dans leur vie d'adulte, sans doute, ils allaient changer le cours de l'histoire.
Oui, ils le disent d'ailleurs, hein, si nous on fait pas le futur, mais dans le fond qui va le faire, puisqu'on va remplacer nos parents, le futur c'est nous, il y a presque, je dirais, une certaine gravité là-dedans, quand ils disent aussi on va tout gâcher.
Une responsabilité.
Et puis bon, c'est peut-être rassurant, c'est-à-dire qu'ils considèrent que rien n'est écrit justement, et que, eh bien, on peut changer les choses, et que ça nous change peut-être des discours qu'on entend, où on peut rien faire, la réalité est unique, etc. C'est peut-être réconfortant pour les adultes d'entendre les enfants parler comme ça.
Ah ben, je suis bien d'accord avec vous. Alors justement, nous allons écouter un petit morceau pour nous ravir les oreilles et nous donner, je ne sais pas si c'est du baume au cœur, mais en tout cas, peut-être une vision de l'humanité, celle de Renaud.
J'ai 100 ans et je suis bien content, je suis assis sur un banc. Et je regarde mes contemporains, c'est dire si je contemple rien. Je file des coups de canne en passant, des coups de pompe au clébard qui m'énervent et je me marre. On peut rien me dire, je suis trop vieux, trop fragile, trop précieux, j'ai 100 ans qui dit mieux. J'ai plus d'amour, plus de plaisir, plus de haine, plus de désir, plus rien. Mais je suis comme le platane, un peu de pluie, je suis en vie, ça me suffit, je suis bien. J'ai des marmots qui me courent partout autour, des gonzesses moins, mais ça mange pas de pain. Je parle aux oiseaux, comme disait l'autre idiot, et je me demande où j'ai mis mon chapeau. J'ai 100 ans et je suis bien content, j'ai encore mal aux dents. Mais la souffrance, c'est très rassurant, ça n'arrive qu'aux vivants. J'attends tranquille sur mon banc que ce vieux monde explose, tant il se décompose. Moi, ça fait 95 ans que je crois plus à grand chose, il est temps que je me repose. J'ai plus d'amour, plus de plaisir, plus de haine, plus de désir, plus rien. Mais je suis comme le platane, comme ma canne, je suis solide et ancien, je suis bien. Je souhaite pas aux petits jeunes une bonne guerre, vu que moi j'en ai pas eu, à part mes 68. Mais je me rappelle même plus en quelle année c'était, ni qui c'est qu'avait gagné. J'ai pas
cent ans, je faisais semblant, c'était que des mots du vent. Mais j'aimerais bien les avoir demain, même aujourd'hui je veux bien. Pour jouir enfin du bonheur, d'avoir pu traverser sans me faire écraser. Cette pute de vie, ses malheurs, ses horreurs, ses dangers et ses passages goûtés. Et voilà.
Et voilà, c'était Renaud. Petit test top chrono. Qui est le premier roi de France? Quand l'Empire romain disparaît-il? À quelle date ont lieu les premiers états généraux? Et alors, vos leçons d'histoire enfouies au fond du cartable? Ou pour les grands des grands au fond d'une mémoire impalpable? Peut-être qu'après tout, les dates, ça ne fait pas tout, me direz-vous. Peut-être que les dates, c'est comme des points-virgules ou même des points d'exclamation dans notre histoire, mais que celle-ci s'écrit dans les pleins et déliés d'une plume à l'encre tenace. Tiens, suivons justement la plume d'Alex Cousseau et Nathalie Chou avec leur histoire d'histoire « Les poissons savent-ils nager ?» aux éditions Sarbacane. Un jour, les poissons auront le mal de mer. Ils se laisseront pousser des bras et des jambes et ils sortiront tous de l'océan, petits et grands. Au début, ils ramperont, ils resteront dans la forêt à manger des champignons. Et puis très vite, les poissons se mettront debout pour aller en ville. Dans la rue, ils se sentiront un peu nus au milieu des gens. C'est pour ça qu'ils videront les magasins pour s'habiller comme tout le monde. Mais les poissons n'ont pas d'argent. Tout le monde les traitera de voleurs. On leur dira de travailler ou d'aller ailleurs. Alors les poissons dormiront sous les ponts. Ils mangeront des pissenlits, en attendant mieux. Jusqu'à ce qu'ils trouvent des idées pour gagner de l'argent. Par exemple, marchand de crevettes. Les poissons connaissent tous les bons coins à crevettes, ça ira vite. Bientôt, les poissons seront riches. Ils ouvriront des magasins sur le port. Les gens leur achèteront des crevettes et les poissons rangeront tout leur argent dans le magnifique portefeuille en cuir de vachette. Ils auront enfin de quoi s'acheter des fleurs à manger chez le fleuriste. C'est à partir de ce moment-là que les crevettes commenceront à déménager dans la forêt pour être plus tranquilles. Les poissons auront de l'argent et ils ressembleront à beaucoup d'autres gens. À part leurs têtes de poissons, mais chez les gens, il existe bien des têtes de cochons et des têtes de mules. L'été, les chinchards iront à la plage en maillot de bain, et l'automne, les éperlans et les esturgeons iront aux champignons. C'est à partir de ce moment-là que les crevettes déménageront en haut des arbres pour être plus tranquilles. Il y a même des poissons qui deviendront célèbres. Un mérou deviendra champion cycliste, le nouveau président de la République, une rétorpille, et ses ministres, un tiers d'hommes, un tiers de femmes et un tiers de sardines, l'accueilleront en triomphe sur la ligne d'arrivée. Il y aura aussi des mariages heureux. Un poisson clown fêtera ses noces avec une femme funambule. On dansera sur une corde tendue entre deux arbres. C'est à partir de ce moment-là qu'on remarquera que les crevettes sont plus nombreuses dans les arbres que dans les mares. Les poissons continueront de gagner beaucoup d'argent en chassant la crevette avec des fusils. Les requins-ci, devenus bûcherons, abattront tous les arbres. Pour être tranquilles, les crevettes se laisseront pousser des ailes. Mais les poissons volants iront tendre des filets dans le ciel. Alors, un jour, les crevettes disparaîtront. Personne ne saura où. Les fleurs disparaîtront de la même manière, les arbres et les champignons également. Ce jour-là, les poissons et les gens n'auront plus rien à manger. Ils ne sauront plus quoi faire de leur argent. Les poissons construiront un énorme bateau, en espérant trouver d'autres fleurs et d'autres champignons sur d'autres continents. Les gens construiront des fusées, en croyant que les crevettes sont parties se cacher sur d'autres planètes. Les gens ne trouveront jamais les crevettes, ils habiteront très loin dans l'espace et on n'entendra plus jamais parler d'eux. Les poissons ne trouveront aucun autre continent, leur bateau cognera contre un iceberg et ils couleront tous. Les poissons, eux, savent nager. Ils nageront et ils aimeront ça. Ils mangeront du plancton et ils aimeront ça. Alors, sur la terre déserte, les crevettes pourront enfin sortir de leur cachette. Elles remercieront les vers de terre pour leur gentillesse et iront à la pêche. Les champignons, les fleurs et les arbres repousseront doucement. Certains jours, les crevettes pêcheront des poissons bizarres, avec un chapeau ou une cravate. Ça leur rappellera des mauvais souvenirs, mais elles préféreront en rire. L'argent aura disparu pour toujours, et il fera bon vivre. Voilà, c'était « Les poissons savent-ils nager ?» Une jolie histoire d'histoire, rocambolesque mais pas si bête sous ses dehors de poissons et de crevettes. Une jolie façon de nous dire attention, attention à notre petite planète un peu fragile et un peu coquette. Alors les enfants, on compte sur vous. Ah oui, j'oubliais, pour les plus studieux, les scrupuleux, le premier roi de France, c'est Clovis. Charlemagne s'est fait sacrer empereur en l'an 800 et les premiers états généraux ont eu lieu en 1314 sous Philippe le Bel. Voilà, cette émission est finie. À bientôt sur 99.2, je le rappelle, le dimanche à 19h, le mercredi à 12h15 et le mardi dans la nuit à 1h30. Ou en podcastant l'émission sur le site des Arbuissonniers, www.lesarbuissonniers.com. Je le répète, www.lesarbuissonniers avec deux S et deux N.com. Voilà, merci à Dominique Pierre, notre invité, Raphaël Terribélé à la console et moi-même, Donatienne Ranc. Je vous dis à bientôt. Thank you.